Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy
dans RTL Midi.
Vous nous appelez jusqu'à 14h30 au 3210 3210.
Et vous nous appelez pour nous dire si oui ou non vous avez confiance à la sécurité sur Internet. Il est extrêmement courant maintenant de donner ses coordonnées personnelles, de donner ses coordonnées bancaires. Il n'est pas question de faire peur, ça fonctionne bien dans la plupart des cas. Mais le Canard Enchaîné révèle aujourd'hui que la SNCF a laissé ses clients à poil, c'est le titre de l'article, a laissé ses fidèles clients à poil sur son site Internet et qu'en étant un bon informaticien, en quelques clics, on pouvait accéder aux données personnelles des clients, mais pas les coordonnées bancaires. Bonjour Jérôme Seyss.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Security Vibes, un site d'actualité sur la sécurité sur Internet. Vous, par exemple, vous auriez pu, avec vos connaissances informatiques, aller facilement sur ce site et récupérer les données des abonnés ?
Sans connaître le détail de la faille, non. En revanche, ce type d'attaque est très très courante, très connue et très simple à exploiter. Il suffit généralement de trouver l'adresse de la partie privée des membres.
Ne donnez pas le mode d'emploi, hein, c'est pas la peine.
Non, mais c'est
parce qu'on est sur RTL, il y a
très connu.
Oui, c'est très connu. Bon.
Et de coller un numéro dessus et de le changer. Puis voilà.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une grossière erreur informatique. Or, on est quand même, on parle de la SNCF, rappelons-le, est le site marchand le plus important de France. Ça ne va pas ensemble, normalement.
C'est le plus étonnant dans cette affaire. C'est que cette faille arrive sur un site qui est le premier site marchand, aujourd'hui en 2010. Ce type de faille est détecté immédiatement par une simple prestation d'audit informatique. Donc on a des gens qui font ça très bien en France, des sociétés qui font ça très bien, ça ne coûte pas très cher. On imagine que la SNCF a les moyens de se payer quelques jours d'audit.
Alors qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur ce site ? Eh bien les noms, les prénoms, les coordonnées d'adresse, hein. Pas les coordonnées bancaires, elles ne sont pas sur le site ? Vous pensez que c'est ça le fait que... Enfin c'est pour ça qu'on les a pas trouvé.
En France, en tout cas, lorsqu'on paye en donnant sa carte bancaire, son numéro de carte bancaire sur un site de commerce, très souvent, le paiement est géré par une banque ou un prestataire de paiement qui est différent du site. Donc il est fort possible que ce soit le prestataire de paiement qui conserve les numéros des cartes bancaires des clients de SNCF, de voyagesncf.com, et de ce fait, forcément, il n'était pas accessible sur le site.
Et ce fichier de clients de la SNCF, donc sans les coordonnées bancaires, ça peut être utile, ça peut se revendre, hein, finalement. Ce sont des listes très précieuses.
Hein. Ça se revend, il y a un marché noir pour ça, il y a des places de marché, des places de marché noir, où on peut acheter des numéros de cartes bancaires, évidemment, plus ou moins chers en fonction du compte, du type de carte, etc. Et où on peut acheter évidemment les adresses, notamment les adresses e-mail. Et dans ce cas précis, c'est un fichier très qualifié, puisqu'on sait que c'est un fichier de gens qui achètent des voyages.
Mmh. Est-ce donc, que ça vous vaut diriez que nos coordonnées personnelles circulent un peu partout, n'importe quand sur Internet ?
Oui.
Ah. Oui. C'est très rassurant, monsieur. Comment ça, oui ?
C'est un marché. Ça vaut de l'argent, donc ça attire des gens compétents qui sont là pour pirater des sites qui ne sont pas tous bien protégés et pour les revendre. C'est devenu un tel problème qu'il y a des lois aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais ailleurs en Europe, qui obligent les entreprises à faire une déclaration lorsqu'elles ont été victimes d'une telle attaque.
À faire une déclaration et auprès de qui ?
Alors, tout dépend auprès de l'État ou... quand c'est plus contraignant, à contacter les clients eux-mêmes pour leur expliquer que leurs coordonnées viennent d'être volées.
Premier auditeur qui veut intervenir et qui veut vous interroger, Jérôme Seyss, c'est Pierre. Bonjour Pierre.
Vous êtes bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous êtes
bonjour.
À quel endroit en France ?
Eh bien, j'habite Jouy-en-Jauvence.
Dans les Yvelines.
Absolument. Voilà.
Alors Pierre, vous utilisez beaucoup Internet, peut-être même ce site de la SNCF ?
Non. Moi, mon point était surtout sur l'aspect des numéros de téléphone.
Oui.
C'est-à-dire que je suis amené à consulter beaucoup de sites de prestations intellectuelles ou de services.
Ouais.
Et lorsque vous vous inscrivez, parfois le téléphone est facultatif et parfois il est obligatoire.
Mmh.
Et je trouve non acceptable le fait que donner son téléphone soit obligatoire. Et ça devrait être interdit. Parce qu'effectivement, je ne peux pas le vérifier, mais je sens bien que des listes circulent, qu'il y a, il y a un commerce de l'information privé, téléphone et adresse. Donc que l'on donne son adresse mail, bon, bah, ça, il faut l'accepter. Son adresse courrier, mon Dieu, on peut la trouver dans l'annuaire, mais le téléphone, je trouve ça inacceptable comme condition pour accéder à une prestation.
Jérôme Seyss, l'adresse Internet, hein, l'email, en tout cas, aussi, c'est ce qui nous amène à avoir quelquefois ces spams, ces courriers indésirables. Hein, c'est comme ça que ça arrive. Hein.
Complètement, et le spam est là aussi un marché, on ne peut même plus parler de marché croissant, puisque au dernier chiffre, chiffres, la quasi-totalité des courriers échangés sur Internet sont du spam. On en est à 97-98%.
Alors, c'est vrai que quand on achète quelque chose, souvent, comme le disait Pierre, on nous demande notre numéro de téléphone. Et si on ne le met pas, eh bien, on ne peut pas accéder à son produit. Hein. C'est extrêmement fréquent. On ne peut pas refuser. Il n'y a pas un moyen de dire, comme c'est ce que vous souhaiteriez, hein, Pierre, de ne pas donner votre numéro de téléphone.
Oui, mais la logique commerciale et informatique est imposée, c'est-à-dire... Ouais.
Il est impossible d'avoir une action collective. Est-ce que ça s'est déjà produit? C'est quand même une donnée personnelle.
Non, le site en tant que commerçant est libre de faire ce qui lui chante. Tout à fait, c'est son site, c'est chez lui, il demande ce qu'il veut, et le client, en échange, est libre de ne pas venir acheter si le fait de donner son numéro de téléphone ne lui convient pas.
Ça vous dissuade d'acheter, Pierre?
Oui, mais je trouve pas très exact de dire ça, parce que c'est commercial. Bon, si on veut acheter des oranges, je comprends qu'on ne donne pas son téléphone. Mmh. Mais vous avez beaucoup de cabinets, justement, ou de prestataires intellectuels, voire même parfois des journaux.
Qu'est-ce que c'est un cabinet de prestataires intellectuels? Qu'est-ce que vous appelez un cabinet de...
Des ressources humaines, dans le domaine du coaching, des sites d'information et qui vous demandent votre téléphone si vous voulez en savoir plus.
D'accord. Ils s'en servent parce qu'ils revendent le fichier, tout simplement.
Oui, mais ils vous appellent aussi. Ils vous appellent soit le lendemain, soit de manière plus discrète, mais ils vous rappellent. Mmh. Et maintenant, moi, je suis beaucoup sollicité sur mon portable, ce qui est un vrai problème, pour des prestations commerciales non sollicitées, quoi. Enfin, voilà.
Alors, si le site a besoin de vous appeler, et si vous avez envie d'être appelé, évidemment, vous donnez votre numéro. Sinon, vous avez le choix de ne pas faire commerce avec ce site-là, et là, on n'est pas forcément, c'est pas forcément sympathique, mais vous pouvez donner n'importe quel numéro.
Un faux numéro,
et puis vous n'êtes pas embêté. Et vous passez le contrôle qui vous permet d'arriver à la suite.
Merci Pierre, on va continuer dans un instant à parler de la sécurité sur Internet et les dangers que ça représente quelquefois.
RTL midi 13h27.
Face aux auditeurs. Dans RTL midi. Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy, dans RTL Midi.
Vous avez une heure, puisqu'il est 13h30 jusqu'à 14h30. Appelez-nous en toute sécurité sur le 3210 3210.
Ça, c'est sûr. Mais Internet, c'est peut-être moins sûr, parce qu'il y a votre nom, votre adresse email, elle est sur Internet, et des petits malins, en trois, quelques clics de souris, arrivent à la récupérer, et donc ça fait peur. Hein.
Si ça vous est arrivé, vous nous appelez, vous nous racontez, bien sûr.
Alors, il y a d'autres sujets, les frais bancaire. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, voudrait un petit peu réglementer, c'est pas la première fois qu'on en parle, les abus des banques en ce qui concerne les frais qu'ils facturent à leurs clients. Il y a bien sûr toujours les élections régionales, la mobilisation demandée par Nicolas Sarkozy à ses ministres, aller sur le terrain, battre le rappel avant le second tour, et puis information essentielle que nous ressentons tous avec bonheur, Elisabeth, fait beau.
Et on va aller sur le blog.
RTL Midi. Le journal du blog, Julien Fautras.
Alors, on pourra parler du temps, hein, et de la réaction des blogueurs tout à l'heure, après 14h, mais cette affaire de sécurité sur Internet, Julien, qu'est-ce que ça inspire?
Autant dire que les blogueurs s'y connaissent. Hein. Bel artiste, déjà, la SNCF ne prend même pas la peine d'avoir un système de sécurité efficace. C'est scandaleux. Même avis pour Pomme d'Api, je trouve cela très grave, ce qui s'est passé à la SNCF. Tout de même, une grande entreprise comme elle devrait se doter de plus de protection informatique. JM, lui, fataliste, hein, sur les sites les plus connus, par souci de facilité, on nous demande même plus systématiquement nos coordonnées, elles sont bien stockées quelque part, et je crois qu'aucun système n'est infaillible. Pierre B, de son côté, nous écrit Internet, c'est un espion hyper performant, il y a toujours une trace qui reste quelque part, et qui veut se donner les moyens de la trouver peut le faire. D'ailleurs, dans les enquêtes, qu'est-ce qu'on demande en priorité? L'ordinateur qui permet de vérifier toutes les connexions passées. Et enfin, ce message de Simard, hein, sur la sécurité sur Internet. Comme à l'accoutumée, les législateurs sont à la ramasse. Je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire, hein, si on peut poursuivre ceux qui divulguent, vendent ou ne protègent pas des données personnelles. Soyez tous extrêmement vigilants, quoi qu'il en soit.
Merci beaucoup, Julien Fautras. Beaucoup de questions, donc, hein, auxquelles vous pouvez répondre. Jérôme Seize, vous qui êtes spécialiste de la sécurité sur Internet. D'abord, donnez-nous une évaluation des incidents qui se produisent et qui sont dommageables pour les particuliers sur Internet. C'est quand même très marginal. Par exemple, le piratage des comptes bancaires, puisque c'est à ça qu'on pense d'abord, par rapport au nombre de transactions, c'est pas grand-chose.
C'est arrivé à Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est vrai. Mmh.
Alors, c'est marginal parce qu'en France, il est bien connu que les nuages radioactifs s'arrêtent à la frontière et le piratage informatique aussi. Maintenant, quand on s'intéresse un peu plus au sujet, ça arrive très très souvent. Alors, en revanche, il y a un mythe, c'est que le numéro de carte bancaire va être forcément volé sur Internet. Ça, c'est faux. Le numéro de carte bancaire est généralement volé dans un petit magasin à l'étranger quand on donne sa carte et qu'on ne la valide sans la puce, par exemple. Il faut savoir que le commerçant a la copie complète de toutes les informations nécessaires pour faire un achat ensuite sur Internet à votre place.
Mais là, je parle vraiment des quand on donne ses coordonnées bancaires au site Internet d'un marchand.
Voilà, quand on donne ses coordonnées, c'est effectivement, ça n'arrive pas souvent. Le risque est que le marchand lui-même conserve le numéro de carte bancaire et se fasse pirater. En France, quand on donne son numéro de carte bancaire, il est traité par un prestataire de paiement qui, lui, est beaucoup plus sûr. Donc,
mais
c'est
par exemple, je prends un exemple personnel, ça doit vous arriver aussi souvent, Jérôme. Ouais. Vous commandez une place, vous qui allez souvent au théâtre, vous donnez par téléphone au guichetier du théâtre votre numéro. Et en fait, il vous arrive rien derrière. Alors ça serait facile. C'est quand même assez rare.
La différence ici, c'est que le guichetier du théâtre va garder le numéro dans un petit tiroir, peut-être, au guichet du théâtre. Et le guichet du théâtre n'est pas connecté à Internet.
Voilà.
Donc, surtout, n'importe qui ne peut pas aller chercher le numéro dans le petit tiroir en bas à gauche. Sur Internet.
Ne donnez pas des idées comme ça. Tous les tiroirs vont être bientôt forcés.
Sur Internet, le petit tiroir du guichet de théâtre est accessible au monde entier s'il est mal protégé. Oui.
Une question de Pascal au Havre, en Seine-Maritime. Bonjour, Pascal.
Bonjour à toute l'équipe. Merci de votre accueil. Voilà, bon, je disais qu'hier soir, j'avais trois lignes de hollandais à traduire en français pour une association. Vous voyez, c'est des horaires, vous voyez. On est ouvert, l'association est ouverte de telle heure à telle heure.
Vous voulez traduire un petit texte, quoi. Oui, ouais.
Un petit texte en hollandais. Donc, je vais sur le fameux... le répertoire de sites et...
Vous allez sur Google, quoi. Ouais.
Voilà.
Ouais, mais bon, très bien.
Et puis, je tombe sur... c'était bien, c'était gratuit. Un téléchargement de logiciels gratuit pour traduire des textes en toute langue. Il y a au moins une cinquantaine de langues. Donc, je télécharge. Et puis, au moment d'installer, le site m'a demandé un temps de renseignement.
Ouais.
Numéro de téléphone, adresse. Etc.
Parce que rien n'est vraiment gratuit, parce que en prenant vos coordonnées, ils s'en servent et ils les revendent, tout simplement.
C'était pour dire aux éditeurs, faut se méfier, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement, Pascal?
J'ai fait deux fois, deux sites différents. Ouais. Moi, je les ai enlevés, quoi. J'ai été les supprimer complètement.
Ce que disait Jérôme XVI en répondant à une question similaire il y a quelques instants, vous pouviez mettre un faux numéro de téléphone.
Alors, je l'ai fait.
Ça n'a pas marché.
Mais il m'a demandé autre chose. C'est mon indicatif de. Mais c'était pas le code postal. Hein, c'était quelque chose de bizarre. Et j'ai pas compris ce qu'il m'a demandé. Donc j'ai laissé tomber. Et l'autre site, c'est pareil aussi. J'avais mis aussi une fausse adresse email.
Ouais.
Parce que je veux pas être embêté par un tas de spam. Voilà. Donc c'est vrai, il faut pas donner ces numéros de téléphone. Ça. Parce que hier j'ai eu trois messages sur mon téléphone, sur mon répondeur. Ouais. C'était des sites marchands.
Voilà. Hein. Jérôme XVI, ça c'est évidemment ce qu'on risque de provoquer.
Et puis le fameux appuyer sur la touche étoile. Ouais. Et voilà. Et faut surtout pas appuyer sur la touche étoile quand on vous appelle.
Pourquoi moi? Pourquoi?
Les télémarketeurs en général préprogramment des numéros et vous demandent d'attendre qu'un télémarketeur soit disponible et vous appuyez sur la touche étoile ensuite pour avoir le message en question publicitaire.
C'est pas gratuit, ça va me coûter combien? Je vais taxer de 1,50€ ou 2€.
Ils se sont cernés par la pub, Pascal.
J'aime pas trop, quoi. Disons qu'on est trop agressé, j'aime bien la pub, mais ça va, 5 minutes, je paye la redevance, je la regarde à la télé, ça suffit comme ça. Hein.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous avez dit que le site vous a demandé de télécharger quelque chose, un logiciel.
Oui, j'ai téléchargé un logiciel.
Alors ça, c'est non. Voilà,
ne faites pas ça.
Ne faites pas ça.
Voilà.
Tout site qui vous propose de télécharger un logiciel, qui vous demande pour voir tel ou tel contenu de télécharger et d'exécuter un programme, ça, il ne faut en revanche jamais le faire.
Oui, d'accord, ok, mais bon, par exemple, moi j'ai un traitement de photos, j'ai téléchargé, il n'y a pas de problème.
Pascal, vous disiez à l'instant que vous n'avez rien contre la pub, nous non plus, regardez.
RTL Midi, 13h38.
Appelez Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy au 3210. Face aux auditeurs, dans RTL Midi. Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy dans RTL Midi.
Il est 13h40, vous nous appelez au 3210-3210. On parle d'Internet et de sa sécurité. Alors, est-ce que vous êtes en confiance? Appelez-nous vite, parlez-nous-en.
Et Jérôme Cesse, hors antenne là, à l'instant, hein, Jérôme nous apprenait qu'un système finalement assez effrayant se met en place.
Oui, il complétait sa réponse à Pascal à l'instant. Pascal qui avait donc téléchargé un fichier. Vous disiez à l'instant, Jérôme, que il fallait surtout pas faire ça parce que c'est le piège, ça peut aller très très loin, Jérôme.
C'est le fléau aujourd'hui de la cybercriminalité, c'est le botnet, c'est-à-dire que on va tenter d'installer sur l'ordinateur d'une victime, d'un particulier, vous, moi, n'importe qui, un petit logiciel qui va donner le contrôle complet de cet ordinateur au pirate. Et là où ça devient totalement délirant, c'est que cet ordinateur-là n'est pas seul, votre ordinateur n'est pas seul, et le pirate peut en contrôler ainsi simultanément plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers, et il leur fait faire absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que votre ordinateur chez vous va être utilisé pour envoyer du spam à un autre pauvre bougre dans un autre pays, va être utilisé pour aller mener des attaques contre des sites web qui vivent du web, des sites de commerce électronique, des sites de paris en ligne, et leur demander une rançon ensuite pour que l'attaque cesse. Et tout ça, c'est fait à partir de votre ordinateur.
Parce
qu'il a été détourné. Alors, soit parce que vous avez été naïf, vous avez installé un petit logiciel qu'on vous a demandé pour voir telle ou telle vidéo que vous vouliez voir. On vous dit qu'il est nécessaire d'installer tel logiciel. C'est un piège très connu.
La consigne, hein, on la répète, la consigne, c'est que si vous voulez voir quelque chose et que
téléchargez pas n'importe quoi.
Téléchargez pour pouvoir nous voir, notre vidéo par exemple, surtout faut pas le faire.
D'une manière générale, dès qu'on vous propose quelque chose que vous n'attendiez pas, et surtout si c'est un programme, il vaut mieux répondre non. Mais ça, c'est en informatique, dès qu'on ne reprend pas la question, il vaut mieux répondre non, c'est plus sûr.
Alors, illustration d'un problème à peu près similaire, Florence dans l'Indre. Bonjour Florence.
Bonjour.
Vous avez eu des problèmes et c'est allé jusqu'à l'île de la Réunion pour vous, hein ?
Tout à fait.
Bonjour.
Donc, ce qui s'est passé, nous avons été auditionnés par la gendarmerie de notre région, là, mon mari, ma fille et moi, il y a 2 semaines.
Ah oui ?
Nous avons frôlé la garde à vue et la perquisition. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Quelqu'un a utilisé mon adresse mail et l'adresse IP qui nous était attribué à un moment de connexion.
Petite parenthèse, il faut expliquer ce que c'est que l'adresse IP, Jérôme 16.
C'est l'identifiant unique d'un ordinateur connecté sur le réseau. Donc, qui peut changer lorsqu'on ne l'utilise plus.
Alors Florence, allez-y.
Alors donc, on a utilisé cette adresse IP et mon adresse mail personnelle pour aller retirer de l'argent sur le compte d'une personne domiciliée sur l'île de la Réunion et réinvestir directement cet argent sur un site de jeu en ligne. Donc la personne, l'escroc qui a fait ça, a dû miser...
Quelle somme c'était, Florence ?
Alors c'était une somme tout à fait singulière, 500 et quelques euros. Mais bon, ceci dit, c'était 500 et quelques euros.
D'accord.
Et si vous voulez, tous les faits étaient contre nous. Et nous avons dû prouver que nous n'y étions pour rien. Ouais. C'est-à-dire que nous... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les faits se sont passés en juin 2008. Donc nous avons dû faire notre propre enquête, se rappeler de ce qu'on faisait ce jour-là, à cette heure-là.
Que 2 ans après, on vous a demandé ça ?
2 ans après, et donc moi je suis quelqu'un qui note énormément de choses et qui conserve tout ce que je note. Bah, donc nous avons dû fournir des alibis.
Vous utilisez du Wi-Fi ?
Pas du tout.
Mais un alibi pour la minute précise. Alors, où cet argent a donné lieu à une transaction. C'est-à-dire à 12h32, j'étais avec ma sœur chez le boucher.
Voilà,
et si vous n'aviez pas pu dire ça et le prouver...
Voilà, tout à fait. Et donc, on nous a donc réquisitionné notre matériel informatique pour que ce soit exploité. Jusqu'à présent, je dirais qu'on n'est pas encore tiré d'affaire. Hein. Nous avons porté plainte auprès de M. le procureur de la République de l'Indre. On a porté plainte donc contre X, hein, parce que on est victime, quelqu'un a usurpé notre identité Internet. Nous avons prévenu aussi les services d'Orange, qui pour l'instant ne nous ont pas répondu d'ailleurs, mais c'est assez récent. Pour les informer, quoi, que ce genre de choses, on peut se retrouver dans cette situation.
Mais une petite question, Florence. Il y a un moment, en 2007, vous avez quand même perdu cette somme, elle a disparu. de 500 euros.
Non, non, elle a été enlevée sur un compte à l'île de la Réunion.
On a utilisé, d'accord. Et cet ami, c'est lui qui s'est aperçu qu'il avait perdu 500 euros.
Non, c'était pas un ami du tout.
Cette personne, moi, je ne la connais pas.
Non, non.
D'accord. Donc complètement étranger à vous. Ah, d'accord.
Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et si vous voulez,
c'est un circuit très compliqué.
Et alors là, la gendarmerie, on est arrivé à la conclusion suivante que bon, qu'effectivement, nous étions victimes au même titre que cette personne. Donc que nous avions certainement été victimes d'un hacker. Et donc, l'affaire suit son cours. Mais ceci dit, c'est plus
et donc
que
convocation à la gendarmerie, oui. Interrogatoire, etc., etc.
Audition, dont notre fille qui est encore mineure.
Ah oui.
Donc, ça a été quand même très éprouvant, d'autant plus que, en ce qui me concerne, moi, j'ai été traitée vraiment comme une moins que rien. Enfin, ça, c'est un autre débat.
C'est un débat sur la garde à vue, par exemple.
Oui, c'est un débat sur la garde à vue.
Qu'on va voir ensemble.
Bon, mais c'est ce que disait Jérôme XVI. Hein. Jérôme, vous confirmez. On parlait des dangers, là. C'est une illustration concrète avec Florence.
Complètement.
Ah, tout à fait. Puis là, j'ai un dossier. On est en plein dedans parce que on nous a redonné notre matériel informatique. Mais bon, l'enquête, si vous voulez, suit toujours son cours. Et bon, pour l'instant, on n'a pas été perquisitionné, mais ça peut arriver. On nous a demandé de fournir un tas de documents bancaires et tout. Nos comptes vont peut-être être épluchés aussi. On ne sait pas encore. Et donc, voilà quoi.
Est-ce que c'est la conséquence absolument directe de ce que vous décriviez tout à l'heure, Jérôme C, c'est-à-dire la prise de contrôle d'un ordinateur d'un particulier?
C'est ça.
Complètement. Alors, madame nous indique qu'elle n'utilise pas de Wi-Fi. Si elle utilisait du Wi-Fi, ça aurait été encore plus simple que ça. C'est que quelqu'un dans le voisinage s'est connecté à sa box, à son modem Wi-Fi ADSL. Et dans ce cas-là, il utilise son adresse IP et pour faire ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, sans utiliser du Wi-Fi, c'est un petit logiciel qui peut être installé sur son ordinateur en douce, discrètement, et qui permet aux pirates de rebondir à partir de sa machine. Et là, tout semble être fait depuis sa machine.
Florence, bon courage.
Édifiante, votre histoire.
Pour la suite, merci de votre appel. On a encore un ou deux appels sur ce sujet. Ensuite, on passera à d'autres choses.
RTL Midi, 13h47.
C'est 32 disponible.
Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi.
Face aux auditeurs, avec Elisabeth Martichoux et Jérôme Godefroy,
dans RTL Midi. Il est 13h50, vous avez jusqu'à 14h30 pour nous appeler au 3210-3210, Jérôme Godefroy, Elisabeth Martichoux.
Dans un instant, on va parler des frais bancaires. Encore une question pour vous, Jérôme 16, concernant donc la sécurité sur Internet. C'est Michael à Thionville en Moselle. Bonjour Michael.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Jérôme.
Bonjour,
je vous appelle donc concernant effectivement, moi c'est quand même relativement moins grave que la dame précédemment, mais je vous explique un peu ma situation personnelle puisque ma femme est enceinte, enfin était enceinte, elle a accouché depuis.
Tant
et
mieux.
Donc
tout
merci, tout va très
bravo
bien.
Bravo, Michael.
Et bien voilà, c'est pour ça que je vous appelais.
Ah, félicitations.
Bravo.
28 ans, déjà papa.
Bon. Voilà, un joli petit garçon à qui j'embrasse très fort, Maxime.
Allez, dites Maxime, comme d'accord. Ça on sait tout.
Bon, très bien. Et alors,
notre sujet.
Donc on était tous les deux absents parce qu'on travaillait à plein temps. Donc toute la journée, le soir, quand on revenait plus tôt, on avait plusieurs appels sur répondeur. Mais des appels, ce sont des répondeurs qui demandent veuillez patienter, vous allez être mis en relation avec un tel. Donc au bout d'un moment, ça coupe. Et donc ma femme étant à la maison pour son congé grossesse, elle était plusieurs fois par jour dérangée par des commerciaux. On a beau leur dire que ça ne nous intéresse pas, on finissait par leur raccrocher au nez parce que les gens insistent. Très souvent, comme l'éditeur précédent disait, on nous demande d'appuyer sur étoile ou d'appuyer sur une touche. Donc moi, je me suis déplacé chez France Télécom et donc on m'a dit effectivement que ça pouvait venir d'Internet mais aussi de France Télécom qui pouvait vendre leur liste. Donc la solution pour pas être dérangé après la venue du petit, ça a été de changer de numéro de téléphone. Donc on est passé sur liste rouge, on a dû changer complètement de numéro, passer sur liste rouge. Et ce qui m'a beaucoup alarmé également, c'est que on est jeune, donc on fait partie de la génération Internet, donc on fait de temps en temps des achats sur Internet, notamment des vêtements de grossesse. Et ce qui moi m'a fait un peu peur, c'est à un moment que je vais sur les sites connus comme Orange ou comme Facebook, pour pas citer, et je voyais des publicités dans le bandeau de droite qui étaient tout à fait en rapport avec notre vie personnelle, c'est-à-dire des vêtements de grossesse, pour les enfants, etc. Et là je me suis dit, mais comment peuvent-ils le savoir, puisque
spontanément ça s'affichait.
Tout à fait. Donc, c'était des vêtements de grossesse.
Moi, j'ai jamais aucune pub. Moi, jamais de pub de vêtements de grossesse sur Facebook, moi.
Genre. Eh ben, c'est, voilà.
Vous ne dites pas ce qu'il y a sur les bandeaux. Vous faites mieux de ne pas le dire. Spontanément. Pour monsieur, c'était donc son sujet du moment, la naissance.
Bah alors, ça, c'est.
Pour moi, là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oula, ça veut dire que, bon, dans des sites complètement différents, on peut savoir ce qui m'intéresse, quoi. Donc, ça veut bien dire.
Jérôme 16, ça paraît tout à fait normal. C'est le commerce, ça, hein.
Là, c'est du commerce. Ouais, on ne parle pas de piratage ici. On parle de marketing, c'est une grande tendance dans le marketing de cibler les comportements des utilisateurs, la publicité très ciblée. Dans le cas de Facebook, il suffit que vous soyez devenu membre d'un groupe qui aime les bébés qui vont naître, ou membre d'un groupe « Je vais bientôt être papa », et ça suffit à déclencher l'affichage des publicités qui vont bien. Donc c'est de la publicité ciblée, c'est pas du piratage. Voilà, personne vous oblige à être sur Facebook.
C'est la règle du jeu.
Voilà, il faut admettre qu'Internet, qui est un outil extraordinaire, utilise aussi ses pratiques commerciales. Il faut l'admettre.
Complètement, voilà.
Et Facebook,
c'est dérangeant parce qu'on sent, on a l'impression que c'est Big Brother. Quoi.
Ça paraît gratuit, mais ça se paye.
Ouais. C'est ça qui nous a fait peur. Donc aujourd'hui, on fait très attention aux sites qu'on télécharge ou aux sites qu'on va visiter.
Ah oui.
On fait également très attention aux paiements en ligne, etc. Mais aujourd'hui, on essaie d'être le plus discret possible sur Internet parce que ça nous fait quand même un peu peur dans le sens où on se dit qu'on est relativement fliqué, quoi.
Hein. Et là, vous racontez votre vie sur RTL et vous venez de dire à des millions de gens que vous avez un petit bébé. Là.
Mon numéro de téléphone à votre collègue tout à l'heure.
Je vais demander
qu'elle ne le communique pas.
Le numéro de la liste rouge.
Voilà. Inventez-vous des vies, changez de vie à chaque site que vous visitez, ouais. Pourrissez leur base de données, ça ne sert pas à grand chose, mais ça.
Mon conseil pour les téléphones, pour le télémarketing, effectivement, c'est de se faire passer pour quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas les pouvoirs, qui est sous tutelle, etc. Les numéros sont ensuite effacés, ou alors on essaye de leur faire comprendre qu'on ne parle pas la langue ou quoi que ce soit, pour que les numéros soient effacés, parce qu'on a été vraiment harcelés. C'est du harcèlement.
Il faut passer son temps à jouer au théâtre, au téléphone, pour se débarrasser des importuns. Jérôme 16, quelques conseils alors, quand même, avant de se quitter. Merci beaucoup, Michael, de nous
Merci
avoir appelé.
Vous,
et encore bravo et longue vie à Maxime. Quelques conseils les plus simples possibles, parce qu'on n'est pas tous des génies de l'informatique, pour se protéger.
Alors, pas besoin d'être un génie de l'informatique, il suffit d'un peu de bon sens. Déjà, de maintenir son ordinateur à jour de ses correctifs. Donc ça, si on utilise Windows...
C'est quoi un correctif ?
Alors, si on utilise Windows, ça se fait tout seul désormais. C'est une grande victoire et Microsoft a mis du temps à le comprendre, mais ça y est, c'est compris. Tous les logiciels ont des trous de sécurité, Windows aussi.
Des mises à jour. Hein.
Et voilà. Et donc, ces trous de sécurité sont corrigés par des mises à jour. Donc là, il faut s'assurer que les mises à jour se téléchargent automatiquement et s'appliquent automatiquement. C'est la base de la base. Ensuite, tout simplement, quand on ne comprend pas la question, on répond non. Tout simplement, ça sert à tout.
Pourquoi, par exemple ?
Très souvent, les failles de sécurité, les attaques ne vont pas utiliser une faille de sécurité, mais vont utiliser la naïveté de l'utilisateur. Donc on va lui demander la permission, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas pirater si on n'a pas la permission. Voilà, donc on va demander, et l'utilisateur qui comprend rien, mais qui a envie d'accéder à son site, qui a envie de voir son petit film, va cliquer sur oui. Voilà, donc... Si on comprend pas, on répond non. C'est une chose. Et puis, avoir un bon antivirus à jour, même pas un antivirus gratuit à jour, ça suffit.
Alors, sans vouloir faire de pub pour une marque d'informatique particulière, mais enfin, il y a moins de problèmes avec Apple, non ?
Avec alors, Mac,
c'est un grand débat. J'utilise un Mac personnellement. C'est pas tant pour la sécurité. Microsoft a été très critiqué. Maintenant, il faut reconnaître que Microsoft a fait d'énormes progrès. Et aujourd'hui, Microsoft répond plus vite et plus efficacement à une faille de sécurité que ne le fait Apple. Apple est encore un petit peu artisan dans le domaine. Donc, il n'y a pas d'un système. S'il suffisait d'être sur Mac pour ne pas être embêté, ça se saurait. C'est pas le cas. Oui, structurellement, le Mac est peut-être un peu plus sûr. Mais aujourd'hui, ce qui le protège le mieux, c'est surtout que c'est une toute petite part de marché, que c'est pas rentable d'attaquer des Macs. Mmh. Le jour où ça le deviendra, le Mac connaîtra les mêmes problèmes qu'a connu Windows, à la différence près que Apple aujourd'hui est moins préparé pour faire face que Microsoft ne l'est.
Alors, je retiens en tout cas que quand on juge un peu importun une proposition de mise à jour, on trouve que c'est pas, enfin, importune, proposition de mise à jour, eh bien, il faut se dire c'est utile, c'est indispensable, je dois en priorité mettre
voilà.
À jour.
Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que la proposition vient bien du site que j'essaye de joindre? En gros, il faut être paranoïaque.
Il faut être paranoïaque.
Voilà,
mais
soyez paranoïaque.
Mais continuez à aller sur Internet.
Voilà. Et bien sûr. Ouais, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on peut aller sur Internet en toute confiance, mais il faut quand même contrôler un minimum de choses.
Je vais donner deux adresses. l'adresse rtl.fr. Hein, là, il n'y a aucun risque.
Ah, attention, attention, la grande pratique des pirates aujourd'hui, c'est d'attaquer des sites de confiance pour les piéger.
Ah non, pas le nôtre.
Alors maintenant, assurez-vous que rtl.fr soit bien protégé, pas comme SNCF.
Et le vôtre, Jérôme Say, c'est securityvibes.com, security en anglais, hein, avec un Y, vibes, V-I-B-E-S, le tout en un seul mot. Merci beaucoup
d'être venu. Merci à vous.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Elisabeth Martichoux, Jérôme Godefroy.